Voilà, bien. Donc, merci tout d'abord à Frédéric Baudin d'être venu ce soir, hein, sur notre invitation. Alors, bon, pour la petite histoire, vous deviez venir enfin, l'an dernier, la saison précédente, en début d'année 2011. Mais vous êtes très demandé. Et comme nos conférences sont prévues très longtemps à l'avance, ben c'est vrai qu'arriver à définir des dates comme ça et que tout tombe bien, c'est pas évident. Donc, c'était que partie remise et on vous a réinvité donc là en fin d'année. Et pour présenter en fait, et ça tombe bien finalement que ça se passe maintenant, puisque c'était pour présenter en fait un satellite d'observation qui a été élaboré par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, donc l'Agence Spatiale Française. Et en ce moment, donc, on est en train de fêter les 50 ans du CNES. Donc c'est l'occasion de reparler de ce satellite-là. Et justement par rapport aux 50 ans, eh bien, on va dire que c'est la conférence inaugurale d'un cycle qui aura lieu en 2012, donc à Poitiers, mais aussi un peu partout en Poitou-Charentes, donc sur différents sites, à La Rochelle, à Royan, à Angoulême, à Mel. Donc il y aura des conférences sur le spatial et des applications qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, en agriculture par exemple, en archéologie aussi, on parlera aussi de Soyouz en Guyane. Enfin voilà, tout ça sera début 2012. Et pour revenir donc à l'invitation de ce soir, donc Frédéric Baudin travaille donc avec ce satellite-là. Il travaille donc à Paris, à Orsay, à l'Institut d'astrophysique spatiale. Et Corot, c'est une très grande aventure parce que la naissance est dans les années 80. Et le satellite a été lancé, mais ma mémoire va faire défaut, en 2006. Super, en 2006. Et donc c'est une aventure, vous voyez, qui a duré 30 ans. Et donc c'est cette aventure-là qui va être racontée, et surtout par rapport à aujourd'hui, des résultats de ce satellite-là. Plus ou moins. Voilà. Alors l'intervention va durer à peu près 45 minutes. Et à la fin de l'intervention, bien n'hésitez pas à demander des compléments, questions, renseignements. Même si on a des fois l'habitude de dire, oh, ben, j'ai peur d'hésiter, de poser une question parce que cette question-là me paraît naïve. Non, non, n'hésitez pas. Toutes les questions sont bonnes à prendre. Et souvent, les questions qui paraissent les plus naïves, je vous assure, ce sont celles qui sont les plus dures pour y répondre. Donc, n'hésitez surtout pas à intervenir. Voilà. Mais je laisse la parole maintenant à M. Baudin. Et donc, je reprendrai la parole tout à l'heure pour animer un petit peu l'aspect débat. Merci.
D'abord, question pratique. Est-ce que si je parle à ce niveau, tout le monde m'entend?
Non, parce que la conférence est enregistrée.
Ah, pardon.
Donc, il faut parler.
Donc, il faut que je cause
dans le micro.
Bon, alors, je vais essayer de ne pas hurler parce que l'habitude d'enseigner, pour se faire entendre des élèves du dernier rang, on a tendance à un peu hurler. Donc, vous me dites si je vous casse les oreilles. Donc, bonsoir, merci d'être là. Donc, je vais vous parler. En fait, je vais vous faire une présentation qui va être en deux parties. Tout d'abord, une première partie où effectivement je raconte un peu l'histoire ou l'aventure de la mission Corot, parce que c'est quelque chose qui a été long et tortueux. Et ensuite, j'embrayerai sur une seconde partie, peut-être plus scientifique, où on parlera donc de la physique des étoiles. Donc, alors l'expérience Corot, oui, il y avait peut-être des gens qui se posaient des questions. Donc, effectivement, c'est un peintre, mais pour nous, ça veut dire convection, rotation et transit planétaire. Donc, la convection et la rotation, ce sont des phénomènes qui sont très importants pour les étoiles, donc on veut comprendre. Et les transits planétaires, c'est donc la détection des exoplanètes, des planètes autour d'autres étoiles. Car justement, c'est une particularité de cette mission, j'y reviendrai, qui avait deux objectifs scientifiques. Comme je préfère ne parler que de ce que je connais bien, je vous dis tout de suite que je ne parlerai pas d'exoplanètes, de transit planétaire. Bon, si vous avez des questions à la fin, je veux bien essayer d'y répondre, mais je préfère m'en tenir à ce que je connais le mieux, c'est-à-dire la physique stellaire. Alors, d'abord, cette mission, quelle est l'origine? Donc l'idée, c'est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur des étoiles. Alors, comme beaucoup de découvertes, c'est quelque chose qui a été observé. Là, j'ai mis un peu par hasard, mais en fait, c'est même complètement par hasard. C'est quelque chose d'assez récent. C'est quelque chose qui a été observé pour la première fois dans les années 60. Des astrophysiciens aux États-Unis voulaient regarder les déplacements de la surface du Soleil. Ils pensaient trouver des déplacements complètement aléatoires, bon, avec éventuellement une certaine distribution en fonction de la fréquence, mais quelque chose de vraiment aléatoire. Et surprise, en regardant donc les déplacements de la surface du Soleil par effet Doppler, eh bien, ils se sont aperçus qu'il y avait une régularité très nette et que la surface du Soleil, elle oscille très régulièrement avec une période de 5 minutes. Alors là, je vous résume un peu ce qui s'est passé dans les 30 années suivantes, parce qu'entre le moment où on a observé ce phénomène régulier et le moment où on l'a compris, bon, il s'est quand même passé une vingtaine d'années. Et un des points marquants, une des confirmations de ce qu'on était bien en train d'observer des oscillations globales du Soleil, ça a été fait par une équipe franco-américaine qui a été observée au pôle Sud. Pourquoi au pôle Sud ? Parce qu'il fallait absolument avoir des observations continues, de plusieurs jours sans interruption. Alors pour ça, vous avez deux solutions. Vous avez l'espace, mais quand vous n'avez pas les moyens ou quand vous n'avez pas réussi à convaincre les agences spatiales, eh bien vous allez au pôle Sud pendant l'été austral, et donc vous pouvez observer le Soleil pendant plusieurs jours. Et là, il y a eu confirmation qu'on était bien en train d'observer des mouvements globaux du Soleil qui sont en fait la même chose que les oscillations de la Terre. On a donc utilisé le terme de sismologie parce que c'est le même principe. On va étudier l'intérieur d'un objet à partir de ses vibrations. Alors je vais un peu détailler ça par la suite. Alors, le Soleil oscille. Alors que se passe-t-il précisément ? Ben, en fait, le Soleil, on peut le considérer comme, je vais en le montrer après, comme un instrument de musique, un peu comme un fût de batterie par exemple, et il peut vibrer. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des ondes acoustiques, dès que je trouve le bouton, voilà. Il y a des ondes acoustiques qui se propagent à l'intérieur de l'étoile, et qui vont rebondir, qui vont être réfractées. Alors ça, c'est parce que la température du Soleil augmente quand on s'enfonce à l'intérieur de l'étoile. Bon, on peut passer là-dessus. Et donc, vous allez avoir toute une série d'ondes qui vont se propager à l'intérieur de l'étoile. Ces ondes, on va les observer en surface, mais ce qui est très important, c'est qu'elles se sont propagées à l'intérieur de l'étoile, à des profondeurs différentes. Là, vous voyez l'onde en rouge s'est propagée uniquement dans des couches assez superficielles, alors que l'onde en bleu a été presque jusqu'au cœur du Soleil. Et donc, en mesurant quelque chose à la surface de l'étoile, on a une information sur ce qui s'est passé à l'intérieur de l'étoile, parce que cette onde, elle a traversé l'étoile, donc elle apporte une information. Alors, ces vibrations, elles peuvent être de toutes sortes, de toutes formes. Il y a bien sûr l'oscillation globale, donc vous voyez l'étoile qui pulse comme ça, mais il y a des choses beaucoup plus compliquées. Donc là, ce sont des exemples qui sont amplifiés 1 million de fois, parce que bon, le Soleil ne se déforme pas de cette manière-là en réalité, vous l'auriez remarqué, je pense. Mais donc, vous avez des tas, on appelle ça des modes de vibration propres, des tas de manières d'osciller de l'étoile. Pourquoi dit-on mode de vibration propre ? C'est dans le sens intrinsèque, c'est-à-dire que c'est une signature de l'étoile. C'est un peu comme votre empreinte digitale. Chaque étoile va osciller selon des modes qui lui sont propres, qui lui sont caractéristiques. Chaque étoile aura ses fréquences d'oscillation. Et effectivement, c'est un phénomène qu'on retrouve dans des tas d'objets. Tout objet, éventuellement, peut vibrer et va vibrer avec une signature caractéristique. Donc là, vous avez l'exemple bien connu du verre que vous faites vibrer en tournant avec votre doigt sur le dessus du verre. Et ce qui est matérialisé ici, ce sont justement des mesures de ces vibrations. Et je parlais d'instruments de musique, c'est l'exemple le plus, peut-être le plus parlant. Voilà, si on mesurait, si on pouvait observer les déplacements de la caisse d'une guitare, ben voilà ce que vous observeriez. La caisse de la guitare, elle oscille, comme le fait le Soleil en fait. Vous avez ici, en tons grisés, les parties qui se déplacent, les parties de la caisse de la guitare qui se déplacent, et vous voyez qu'il y a différents modes de vibration, là, avec un motif assez simple, un motif un peu plus compliqué, un autre motif encore plus compliqué, qui correspondent à des notes différentes. Donc le Soleil, c'est pareil, on peut le considérer de loin comme un instrument de musique. Toutefois, je mets tout de suite une limite. Il est hors de question d'écouter la musique du soleil. Pour ça, il y a deux raisons. Donc, d'une part, je vous ai dit au début, ces oscillations ont une période de 5 minutes. C'est donc une fréquence extrêmement faible. Le son, là je vous parle, la gamme de sons que l'oreille humaine peut percevoir va, si je ne me trompe pas, de 20 Hz à 20 kHz, il me semble. Donc là, on parle de période de 5 minutes, c'est-à-dire qu'on est de l'ordre du millihertz. Ce sont des fréquences, c'est même plus des infrasons, ce sont des fréquences extrêmement basses. Donc ce ne serait pas perceptible par l'oreille humaine. Mais de toute façon, il y a bien sûr un gros obstacle, c'est que pour que le son se propage, il faut qu'il y ait un support, l'air, et bien sûr, entre le soleil et nous, il y a le vide interplanétaire, donc il est hors de question d'écouter ces oscillations. Donc ce qu'on fait, c'est la même chose qu'ici. On n'écoute pas les oscillations du soleil, on les observe, on regarde la surface du soleil vibrer, comme on regarde ici la surface de la caisse de la guitare vibrer, ou comme on regarderait un fût de batterie. Vous tapez sur la batterie, vous avez donc la peau du fût de batterie qui va se mettre à vibrer, et donc on mesure simplement ces oscillations, et c'est comme ça qu'on peut remonter à une information sur l'intérieur du soleil. Alors, je vais m'aventurer un peu dans un terrain. J'essaye de satisfaire tout le public. Donc il y a des gens qui ont une culture scientifique assez avancée, d'autres moins. Donc là, pour les gens qui sont un peu familiers, mais je pense que c'est accessible à tout le monde. À partir du moment où on parle d'oscillation, de périodicité, on a recours à une analyse qui s'appelle l'analyse de Fourier. Alors, c'est pas compliqué, c'est juste comprendre le signal en termes de fréquence d'oscillation. Et là, ce que je vous montre, c'est ce qu'on appelle le spectre de Fourier d'une note, du La, qui doit être à 440 Hz. Alors, je ne suis pas musicien, donc j'espère que c'est la bonne fréquence pour ceux qui connaissent. Mais voilà, quand vous tapez sur un diapason qui vous donne le La, et ben en fait, votre diapason, il oscille à cette fréquence de 440 Hz. Et donc, dans un spectre de Fourier, ça vous donne un pic très précis à cette fréquence. Alors, on a des spectres plus complexes, si ça veut bien marcher. Donc, dans le cas d'une note de guitare, c'est pareil, vous frappez votre corde, vous allez avoir une note qui domine, la note fondamentale. Donc là, ça n'est pas le La, mais bon, c'est quelque chose dans la même gamme de fréquences. Et vous avez des harmoniques qui sont des multiples de cette fréquence. Donc là, c'est simplement le spectre de Fourier de quelque chose d'une seule note. Et on a des choses encore plus complexes. Vous avez un gong, vous voyez le son que ça fait un son à la fois très grave, mais ça fait aussi un bruit très métallique en même temps, et ça se manifeste par un spectre très compliqué, avec des notes de basse fréquence et des notes de fréquence plus élevée. Donc voilà, cet outil, il permet de remonter au contenu du signal, et c'est là qu'est toute l'information en fait sur l'oscillation, et donc sur l'intérieur de l'étoile, puisque je vous ai dit que cette oscillation, cette onde, elle s'est propagée dans l'étoile, et sa fréquence va nous informer sur la température, la densité à l'intérieur de l'étoile. Pour ça, vous pouvez penser encore à un exemple de musique. Les musiciens, avant un concert, ils vont accorder leur instrument. Pourquoi ? Parce que leur instrument, il est sensible aux conditions dans la salle de concert, la température, l'humidité, etc. Donc leur instrument va être une sorte de thermomètre, par exemple, selon la température, selon qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, il va falloir qu'ils tendent un peu plus leurs cordes pour trouver la bonne note. Si vous mettez un violon dans un congélateur, vous n'aurez pas la même note que si votre violon était à température ambiante. Donc voilà, vous voyez que la manière d'osciller d'un objet, que ce soit une étoile ou une corde de violon, c'est quelque chose qui permet d'obtenir une information physique, de mesurer un paramètre physique de l'objet, en particulier sa température. Et donc c'est le principe de la sismologie. Et donc voilà ce que donne le spectre d'une étoile. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. On a une répétition de notes qui sont des multiples les unes des autres, et c'est grâce à toutes ces fréquences, toutes ces notes, qu'on va donc remonter à quelque chose d'intéressant, comme par exemple la température au cœur du Soleil. Vous avez peut-être entendu ou lu que la température au cœur du Soleil est de l'ordre de 15 millions de degrés. Bien sûr, on n'y a jamais mis les pieds. Mais la sismologie nous a confirmé que c'est effectivement c'est bien la température au cœur du Soleil. Sinon, la musique du Soleil serait différente. On n'aurait pas les notes, les fréquences qu'on observe. Donc voilà, ça, c'est le principe qui a lancé l'idée de Corot. On voulait faire ce qui a été fait sur le Soleil à partir d'observations depuis le sol terrestre ou depuis même l'Antarctique. On voulait rééditer la performance, mais pour des étoiles. Ah oui, pardon, j'étais un peu vite. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais c'est donc grâce à la sismologie qu'on peut remonter à la structure interne du Soleil. Donc en gros, le Soleil, on peut le diviser en trois parties. Un cœur relativement petit qui fait 20% en taille de l'étoile, où justement là, on a une température très élevée de 15 millions de degrés. Et c'est là qu'ont lieu les réactions nucléaires qui fournissent l'énergie au Soleil, j'en reparlerai. Et deux zones. Une zone qui est animée de mouvements convectifs à l'extérieur pour amener la chaleur vers la surface, et une deuxième zone beaucoup plus calme où là simplement l'énergie est transportée par rayonnement. Mais bon, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc voilà l'idée de Corot, faire ce qu'on fait pour le Soleil, pour les étoiles. Alors bien sûr, le gros problème, c'est la quantité de lumière reçue. Alors qu'on recevrait 100 milliards de photons, donc la quantité minimum de lumière, si on en recevait 100 milliards du Soleil, on n'en reçoit qu'un en moyenne des étoiles. Donc l'information va être beaucoup plus difficile à extraire. Et donc pour ça, c'est une des raisons, mais il faut aller dans l'espace. Parce que c'est dans l'espace qu'on obtiendra des mesures de stabilité, de précision suffisantes pour observer ces oscillations. Parce que ces oscillations, je vous en ai pas parlé, mais elles sont quand même très faibles. Vous n'avez jamais vu le Soleil, même si vous le regardez 5 minutes d'affilée, vous n'allez pas le voir varier. Ce sont des oscillations de l'ordre de, en, donc en, en intensité relative, c'est de l'ordre de la partie par million. Donc il faut repérer une variation de 1 photon quand vous en avez mesuré 1 million. Donc il faut vraiment des instruments précis, stables, et donc ça implique de manière obligatoire pour les étoiles d'aller dans l'espace. Bon, en plus, il y a un autre phénomène, c'est que si on veut observer une étoile assez longtemps, il faut aussi s'affranchir de la rotation jour-nuit et se placer en orbite autour de la Terre. Donc ça, c'était l'idée. Et cette idée, donc là, je voulais vous donner un peu une idée des échelles de temps. Cette idée, elle est apparue très tôt. Donc je rappelle, la sismologie solaire, c'est quelque chose qui remonte aux années 1960, du moins les premières observations. La compréhension théorique, on va dire fin des années 70. Et donc, bien sûr, dès les années 1980, y a des gens qui se sont dit il faut faire la même chose pour les étoiles. Donc voilà, ça a été lancé en 84 à Paris. La France a toujours été bien placée dans ce domaine. Si je m'en sors avec cette présentation. Et donc, il a fallu réfléchir au problème, montrer que c'était possible, parce qu'une agence spatiale va vous dire on veut bien financer votre projet, mais il faut nous convaincre que c'est faisable. Donc ça a demandé énormément de travail. Et je passe sur d'autres expériences spatiales qui ont été proposées auparavant, qui n'ont pas eu de succès. Mais c'est en 1993 qu'il y a une première proposition au CNES, donc l'Agence spatiale française, qui a été présélectionnée en 1994. Et donc, on prévoyait à cette époque un lancement en 1997. Donc, vous voyez déjà, l'idée germe dans le cerveau de certains chercheurs en 1984. C'est seulement 10 ans après qu'on a réussi à convaincre une agence spatiale. Et un lancement en 1997, c'était déjà optimiste. Bon, ça, on sait très bien que ça part jamais à la date prévue. Mais alors là, en l'occurrence, ça a été particulièrement gratiné comme retard. Parce que bien sûr, après, il peut arriver des tas de choses dans la vie d'une mission spatiale, des coupures de budget, c'est ce qu'il y a de plus courant. Mais il peut aussi arriver d'autres choses. Et donc pour Corot, il y a eu deux événements majeurs. Bien sûr, il y a les progrès instrumentaux. Maintenant, vous êtes très familier avec les CCD peut-être. Hein, ce sont ces détecteurs de lumière qui sont maintenant partout, en particulier dans les appareils photonumériques. C'est quelque chose qui, il y a 20 ans, n'était pas si courant et qu'il fallait surtout spatialiser. Donc ça a permis de convaincre encore plus, d'améliorer les possibilités de l'instrument et de convaincre encore plus facilement les agences spatiales que c'était possible d'atteindre nos objectifs scientifiques. Mais surtout, la grosse découverte, je ne sais pas si vous vous rappelez, du moins pour... peut-être pas pour les plus jeunes d'entre nous, mais en 1995, découverte des premières exoplanètes. Et assez rapidement, plusieurs ont été découvertes, et c'est devenu bien sûr un sujet de recherche extrêmement intéressant, extrêmement attirant. Et il y a une manière de détecter les exoplanètes qui, en fait, est relativement simple. Si vous avez la chance que cette planète qui orbite autour d'une autre étoile, si cette orbite est dans le plan de votre ligne de visée, vous avez ce qu'on appelle un transit ou une éclipse. Vous avez votre planète qui tourne et qui va passer devant l'étoile. Et donc, il va se passer, pas une éclipse, parce que la planète est beaucoup trop petite pour éclipser complètement l'étoile, mais si vous regardez au cours du temps la quantité de lumière qu'émet cette étoile, vous allez avoir donc une diminution d'intensité qui, dans ce cas-là, va durer une dizaine d'heures et dont l'intensité va être de l'ordre de 100 ppm, donc 100 parties par million, donc un 10 millième en fait. Et je vous ai dit tout à l'heure, les oscillations des étoiles qui nous servent à voir à l'intérieur des étoiles sont de l'ordre de quelques parties par million. Donc il y a des gens qui se sont dit, on va en même temps que observer les oscillations des étoiles, on va pouvoir détecter des exoplanètes. Et c'est un peu ça. Donc là, vous avez une petite animation avec la baisse de luminosité de l'étoile au fur et à mesure que la planète passe devant. Et donc voilà, ça a permis de passer d'une expérience spatiale avec un objectif scientifique. Ça a permis de passer à, pour le prix d'une expérience, vous aviez deux objectifs scientifiques, ce qui a été l'argument massu pour convaincre le CNES de faire cette manip. Mais c'était un peu une nouvelle manip, donc il a fallu modifier un peu la conception de l'instrument. Et donc, nouvelle proposition, cette fois-ci en 1997, avec ce double objectif scientifique. Donc, comme je disais tout à l'heure, la convection, la rotation à l'intérieur des étoiles, qui sont très importantes pour l'évolution de l'étoile, j'en reparlerai après, et donc les transits planétaires. Cette fois-ci, c'était très bien parti. Encore quelques vicissitudes. Il y a eu des difficultés à la fois politiques et financières. Bon, c'est la vie. Et donc finalement, l'acceptation définitive n'a eu lieu qu'en 2000. On prévoyait le lancement encore 4 ans après. Et bien sûr, bon, je vous passe les détails. Le lancement n'a eu finalement lieu qu'en décembre 2006. Et encore, on a vraiment mis la pression pour que ça se fasse, parce qu'on savait que dans d'autres pays, les États-Unis, pour ne pas les citer, il y avait des missions similaires qui étaient développées. Et que si on voulait garder l'avance qu'avait la France à cette époque, il fallait lancer au plus vite. Donc voilà, 2006, je vous rappelle que les premières idées qui ont germé remontait à 20 ans auparavant. Donc une mission spatiale, comme disait Eric, c'est quelque chose, vous en entendez parler dans les journaux quand elle est lancée, ou à la radio. Il faut savoir que c'est quelque chose qui dure très longtemps et que dans une carrière de chercheur, on en fait une, on en fait deux, trois si elle se chevauche un peu. Mais c'est quelque chose qui est quand même qui se déroule quand même sur le long terme. Alors un petit mot sur une mission spatiale. Une mission spatiale, c'est, on a tendance à penser bien sûr au satellite, mais ce satellite, il est déjà formé d'une plateforme qui est simplement le support, on va dire, qui lui permet d'être en orbite et de faire à peu près de se placer à peu près où on veut. Bien sûr, ce satellite, il supporte un instrument qui est la raison d'être d'une mission scientifique. Quand on met au point une mission spatiale, il va falloir trouver un lanceur. Ça n'est pas anodin parce que ça représente une fraction très importante du budget total. Ça peut aller jusqu'à 50%, moins si la mission coûte cher, mais c'est quelque chose de très important. Il faut que le lanceur soit adapté aux orbites qu'on souhaite, ce qui n'est pas toujours évident. Il faut un lanceur puissant si on veut aller assez loin, ou si le satellite pèse assez lourd. Et dernière composante, c'est la composante au sol. Bien sûr, une fois que votre satellite est en orbite, il faut quand même récupérer toutes les informations qu'il a collectées. Et donc, il faut tout un réseau d'antennes au sol pour récupérer les données. Et ensuite, il faut analyser et traiter les données. Bon, ça me tient particulièrement à cœur parce que notre laboratoire est le laboratoire où on traite, en partie en tout cas, et où on distribue les données. Donc, on est à la fin du processus de collecte et au début du processus de distribution des données à la communauté scientifique. Alors quelques mots sur l'instrument. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui fait une taille raisonnable, en tout cas pour Corot. Il y a des missions spatiales qui sont beaucoup plus imposantes que Corot. Corot reste une petite mission, en tout cas dans la nomenclature du CNES et même dans l'absolu. Vous voyez pour les gens qui font de l'astronomie qu'un télescope de diamètre de 27 cm, c'est quand même très raisonnable, c'est même tout petit. Pourquoi ? C'est simple, le prix du kilo à envoyer dans l'espace est très élevé, donc on ne peut pas envoyer quelque chose de très lourd. Si les Américains le font, le Hubble Space Telescope, je ne sais plus quel diamètre il fait, mais c'est de l'ordre du mètre, je crois. Donc c'est une autre dimension. Pour le prix du Hubble Space Telescope, on aurait lancé beaucoup de coraux. Donc ces fameux détecteurs qui ont vraiment décuplé les possibilités de la mission spatiale et vraiment d'atteindre sans problème ces objectifs scientifiques. Toute la partie électronique est fondamentale mais qui finalement ne représente qu'un petit volume. Et là, une particularité de l'expérience Corot, le baffle, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on veut observer des variations de luminosité de l'étoile qui sont très faibles, de l'ordre de 1 pour 1 million. Donc dans ce cas-là, il est hors de question d'avoir des parasites, par exemple du Soleil, ou même de la Lune, de la lumière du Soleil réfléchie par la Lune. Il est très important de ne mesurer que les photons qui viennent de l'étoile. Et donc c'est pour ça qu'on a sur Corot cette particularité, quelque chose qui fait la moitié, peut-être même plus de la moitié en taille de l'expérience. C'est du vide, c'est principalement du vide, c'est un long tube étudié de manière très, très sioux pour qu'il n'y ait pas de réflexion parasite, mais c'était très important pour atteindre les objectifs de la mission. Quelques images donc de la réalisation et des tests dont certains ont eu lieu à Orsay. Donc voilà, vous voyez qu'on quand on travaille sur un satellite, on est toujours affublé de je ne sais plus comment on appelle ça d'ailleurs, de la charlotte, voilà, de la blouse, on a des enveloppes sur les chaussures. Bon, c'est une salle propre, il faut donc aucune pollution. Il y a énormément de tests, parce que quand vous envoyez une mission dans l'espace, il faut que ça marche du premier coup. Il n'y a que les Américains, une fois de plus, qui peuvent se permettre d'envoyer une expérience dans l'espace, de la rater et de la réparer, le Hubble Space Telescope. Ça leur a coûté une fortune, mais au moins ils ont sauvé la face. Nous, on n'aurait pas pu sauver la face si ça n'avait pas marché. Donc énormément de tests. Donc, vous voyez ici l'expérience au cours des tests qui en particulier ont lieu à Toulouse. Donc voilà, vous voyez la taille des installations nécessaires à ces tests. Donc il y en a à peu près qu'en France à Toulouse. Et ensuite le grand jour. Donc enfin, transfert de l'instrument sur le site de Baïkonour, puisque Corot a été lancé par une fusée Soyouz. Donc la grosse angoisse, bien sûr. Moi, je n'étais pas là-bas. Il n'y avait quasiment personne, pas de scientifique sur place. Mais on suivait, bien sûr, ça avec angoisse, parce que, comme je vous l'ai dit, bon, moi, je n'étais pas en 84, j'étais encore un peu jeune pour être impliqué dans Corot, mais ce sont plusieurs années d'implication pour pas mal de monde qui peuvent partir en fumée si jamais le lancement se passe mal. Vous avez peut-être entendu parler la semaine dernière de la mission Phobos Grunt, une mission russe qui devait partir vers Mars et qui est restée en carafe autour de la Terre. Donc des années de travail qui restent en plan en orbite terrestre et qui finiront par être détruites en rentrant dans l'atmosphère quelques semaines plus tard. Donc voilà, là, on était quand même très heureux de voir la manip partir pour notre Noël. Donc je n'ai jamais assisté à un lancement en vrai. Il paraît que c'est quelque chose d'assez impressionnant, forcément. Un tremblement de terre sur commande. J'ai aussi trouvé quelques petites images rigolotes. C'est un journal télévisé américain. Et pour vous convaincre qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte à la télé, ils ont obtenu des images qui étaient en fait les restes des premiers et deuxième étages, je crois, de la fusée Soyouz qui a lancé Koro. Ce premier étage, au bout d'un moment, re-rentre dans l'atmosphère et donc ressemble à des étoiles filantes. Sauf qu'eux, ils disaient que c'était des étoiles filantes. Et ce qui est, quand on entend la bande son, je ne sais plus s'ils... Bon, ils disent « Ah, c'est marrant, ces comètes ou ces météorites, on dirait vraiment une fusée qui est en train d'exploser. » Ben oui, très juste, c'était effectivement les restes du lanceur de Koro qui redescendait dans l'atmosphère terrestre. Donc voilà, ça c'était fin 2006, et à notre grande satisfaction, eh bien ça a très bien marché. Là, ce que je vous montre à gauche, c'est ce fameux spectre de Fourier, cette signature, cette empreinte digitale de l'étoile dans le domaine acoustique. Ça, c'était le Soleil en 1988. Et ça, c'est ce que fait Koro 20 ans après. Et c'est vraiment inespéré. Vous voyez la signature des oscillations de ces étoiles. Alors bien sûr, c'est moins propre, mais je vous rappelle qu'elles sont donc des millions de fois plus faibles. Quand moi j'ai commencé ma thèse, c'était donc un petit peu après, donc dans les années 90, jamais je n'aurais cru qu'on pouvait obtenir un signal aussi propre pour les étoiles. Donc voilà, il ne faut jamais désespérer, les progrès instrumentaux sont vraiment incroyables et on a pu faire des choses auxquelles on ne croyait vraiment pas. Alors, maintenant que je vous ai raconté le côté humain, l'aventure humaine de l'expérience Koro, je vais vous parler de cet objectif scientifique qui est la compréhension de l'intérieur des étoiles. Je précise tout de suite que ce que je vais vous raconter là, ça n'est pas Koro qui l'a découvert. Koro a contribué à affiner, à nous donner plus de détails sur l'intérieur des étoiles. Après, il y a eu des progrès qui ont été faits qui sont peut-être un petit peu trop techniques et qui ne vous exciteraient pas forcément beaucoup. Donc je vais essayer de vous donner un point de vue général sur ce qu'on comprend de l'intérieur des étoiles et en fait de comprendre la diversité des objets qu'on observe. Et j'appelle ça « quel âge ont les étoiles » parce qu'un des paramètres très importants, c'est justement l'âge de ces étoiles. Alors si vous levez le nez au cours d'une nuit par temps clair, on a peut-être un peu l'impression que toutes ces étoiles se ressemblent, qu'elles sont toutes pareilles, parce qu'effectivement, ça reste des points lumineux qui ont l'air de tous se ressembler. Bien sûr, il y a une différence notable, c'est le Soleil, notre étoile à nous. Et on pourrait se dire que la seule différence entre le Soleil et les étoiles, c'est simplement l'éloignement. Alors, effectivement, les distances sont importantes et impressionnantes. Donc, le Soleil, nous en sommes situés à 150 millions de kilomètres. Alors, moi, j'ai toujours un peu un problème avec les distances, parce que ce sont les distances et les tailles, parce qu'on rentre dans un domaine qui est littéralement surhumain. S'imaginer 150 millions de kilomètres pour la distance Terre-Soleil, s'imaginer 1 400 000 kilomètres pour la taille du Soleil, je pense que c'est assez difficile à imaginer pour notre petit cerveau. Ce qu'il faut peut-être retenir, c'est simplement qu'il y a un rapport 100 entre la distance Terre-Soleil et le diamètre du Soleil. Donc on est à peu près à 100 soleils du Soleil, et qu'il faut le comparer avec la Terre, parce que la Terre, elle est justement, elle est un peu moins surhumaine. Donc je rappelle le diamètre de la Terre, 12 000 km. 12 000 km, c'est ce que fait une voiture en moyenne par an, donc c'est presque humain. Donc, et c'est 100 fois moins que le diamètre du Soleil. Donc gardez en tête l'énormité d'une étoile. Et encore, comme on va le voir, le Soleil est loin d'être la plus grosse des étoiles. C'est une petite étoile assez banale qui reste quand même donc 100 fois plus grande que la Terre, et l'ordre de grandeur est valable pour toutes les planètes intérieures du système, même si Mercure est nettement plus petit, et ainsi que Mars. Alors maintenant, les étoiles. Et donc là, gros problème, on change d'unité. Tout le monde connaît, je pense, l'unité de distance qu'est l'année-lumière. Bon, ok, la distance que parcourt la lumière en un an. Le problème, c'est que si on l'exprime en kilomètres, bah, bien sûr, il y a un problème. C'est pour ça qu'on parle d'année-lumière. Mais donc, pour les gens familiers de la notation scientifique, c'est donc 4 années-lumière, c'est à peu près 4 10 puissance 13 kilomètres, donc 4 et 13 zéros derrière. Donc, quelque chose de complètement surhumain. Donc ce que je fais pour essayer de ressentir ça, bah, c'est de ramener, c'est un exercice classique, pardon, donc de ramener ça à la taille d'objet de la vie de tous les jours. Donc si on ramenait le Soleil à un pamplemousse, eh bien nous serions sur une petite boule de 1,5 mm de diamètre qui serait située à 15 mètres de ce pamplemousse. Bon, ok, donc là on a encore un peu, on se dit ça tient dans notre petite tête. Le problème, c'est que dans ce cas-là, la première étoile est située à 4000 km. Donc vous voyez l'immensité, l'énormité des distances qu'on est en train de décrire. L'espace, c'est du vide. Les distances entre étoiles sont énormes, sauf cas particulier, bien sûr. Pour les gens qui connaissent les amas, bon, voilà, bien sûr, on va avoir des, des distances plus faibles. Mais on a donc affaire à des objets totalement surhumains. Alors est-ce que justement ces étoiles elles ne sont différentes que par leur éloignement ? Bah, pas du tout. Vous avez peut-être entendu parler de termes comme les géantes rouges, les naines blanches, les géantes bleues, les trous noirs, etc. Donc non, ces étoiles sont loin d'être toutes similaires. Et donc là vous avez un avant-goût avec le Soleil ici, donc petite étoile jaune, et donc des étoiles qui sont beaucoup plus grosses que lui. On va donc expliquer, je vais vous expliquer pourquoi. Et ce qui n'est pas représenté sur ce diagramme, c'est aussi des étoiles plus petites. Le Soleil n'est ni la plus petite ni la plus grosse, c'est vraiment une étoile assez, assez moyenne. Et donc, deuxième paramètre, qui est un peu que vous pouvez deviner ici, notre Soleil paraît jaune. Alors, il n'est pas forcément jaune, on va y revenir. Certaines étoiles, pour les gens qui ont de très bons yeux, bon, ce n'est pas mon cas, j'ai jamais vraiment pu m'en convaincre, mais certaines étoiles sont plutôt bleutées, alors que d'autres sont carrément plutôt rouge-orange. Et donc voilà, on a des étoiles qui diffèrent par leur taille et par leur couleur. Et donc ça, tout ça, ça s'explique physiquement, du moins j'espère vous convaincre que ça s'explique assez facilement. Quelque chose qui est très utile quand on veut essayer de dresser un paysage de toutes ces étoiles, pour essayer de, parce que c'est peut-être pas aléatoire, et effectivement c'est loin d'être aléatoire. Au 19e siècle, il y a des gens qui se sont amusés à représenter les étoiles en fonction de leur luminosité, en mettant les étoiles les plus brillantes en haut et en descendant vers les étoiles plus moins brillantes, et en plaçant les étoiles chaudes sur la gauche et les étoiles froides, alors pardon, les étoiles bleues, vous voyez où je veux en venir, les étoiles bleues sur la gauche et les étoiles rouges sur la droite. Et donc ce qui se passe quand on représente toutes les étoiles qu'on observe de cette manière, ben on s'aperçoit qu'elles ne sont pas réparties au hasard, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de diagonale qu'on appelle la séquence principale, et je vous décrirai ce que c'est, et que toutes les étoiles, toutes les grosses étoiles, les étoiles de grande taille sont dans le coin supérieur droit, et que toutes les petites étoiles sont dans le coin inférieur gauche. Et tout ça, ça s'explique facilement. Alors d'abord, la couleur. La couleur, bah, vous pouvez penser à des expressions qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Chauffer au rouge, chauffer au blanc, bah, ce sont des expressions qui sont tout à fait justifiées parce que la couleur, selon certaines approximations, on va passer ce soir, bon, c'est les approximations du corps noir, la couleur est en fait un indicateur de la température directement. Et plus précisément, on va donc relier la couleur, c'est-à-dire la longueur d'onde, hein, la couleur, la lumière est un rayonnement électromagnétique, donc en physique on va parler de longueur d'onde, on va pouvoir relier directement la couleur d'une étoile à sa température de surface, et donc c'est un peu le contraire de ce qui se passe dans votre salle de bain. Une étoile bleue, en fait, correspond à une étoile qui est très chaude, qui est relativement chaude en surface, donc par exemple ici entre 7 et 8000 degrés, alors qu'une étoile rouge a une température de surface de seulement 4 à 5000 degrés. Alors attention, ces étoiles, elles n'émettent pas que dans le rouge ou que dans le bleu, elles émettent sur toute une gamme de couleurs, mais qui est dominée, donc par exemple pour une étoile très chaude, une étoile O qui a une température de surface de 32 000 degrés, elle va surtout émettre dans le violet, et ainsi de suite, comme ça, on va descendre jusqu'à des étoiles qui émettent principalement dans le rouge, qui n'ont qu'une température de 3 000 degrés de surface. Alors, je vais utiliser les termes de froid et chaud. Bien sûr, tout est relatif, puisque je parle d'une étoile chaude quand elle fait 15 000 degrés, en comparaison d'une étoile froide dont la température de surface est de l'ordre de 3 000 degrés. Donc voilà, une chose qui s'explique, c'est leur couleur à cause de la température de surface de ces étoiles. Alors la température, d'où vient-elle? D'où vient cette énergie? D'où vient cette chaleur? Bon, bah, ça, c'est quelque chose qui est compris depuis pas mal de temps, qui est compris depuis le début du XXe siècle. C'est la fusion thermonucléaire. Donc la matière est constituée d'éléments de base, qui sont par exemple le proton et le neutron. Et bon, je ne vais pas vous faire un cours de physique nucléaire, je vous rassure, mais vous allez avoir toute une suite de processus. Deux protons vont rentrer l'un dans l'autre, par exemple. Ils vont fusionner pour donner ce qu'on appelle un noyau de deutérium, qui va lui-même rentrer dans un autre proton. Ça va former un noyau avec deux protons et un neutron, c'est de l'hélium léger, qui va rencontrer un autre noyau du même type. Et à la fin, on se retrouve avec un noyau avec deux protons et deux neutrons, donc pour les gens qui ont fait un peu de physique, c'est un noyau d'hélium. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la fusion thermonucléaire, c'est donc une fusion de particules élémentaires qui va nous faire passer d'un élément simple, un proton, c'est-à-dire c'est un atome d'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant dans l'univers, vers un noyau un peu plus compliqué, un noyau d'hélium, deux protons, deux neutrons. Mais surtout, ce dont je n'ai pas encore parlé, c'est qu'à chaque étape, il y a émission de particules comme les positrons, mais aussi de rayonnement, c'est-à-dire d'énergie, de photons. Et c'est ça qui est la source une des sources de chaleur. Donc il y a émission de rayons gamma, par exemple, lors de la fusion, lors d'étapes de cette fusion de l'hydrogène vers l'hélium. Alors ce qu'il faut retenir, justement, c'est qu'une étoile, ça n'est qu'une énorme chaudière thermonucléaire. Donc, on connaît malheureusement quelque chose de beaucoup plus violent, la bombe H, où là, vous avez fusion nucléaire, mais sur une échelle de temps très courte. C'est une réaction en chaîne qui s'emballe, et donc explosion dévastatrice. Ce qui se passe dans une étoile, c'est le même processus, sauf que ce processus est contrôlé. Un peu aussi ce qu'on veut faire dans le réacteur ITER, à Cadarache, dans le sud de la France. Alors comment on contrôle ce processus explosif qu'on sait reproduire avec une bombe H? Bah, c'est tout simplement la masse de l'étoile qui va servir de couvercle, si vous voulez, à cette chaudière. La masse de l'étoile est énorme, donc elle est attirée par sa propre gravité. La masse du Soleil, c'est 2 10 puissance 30 kg, pareil, encore un chiffre surhumain, donc c'est difficile à appréhender, mais donc 2 et 30 zéros derrière. Je vous le convertis même pas en tonnes, ça change rien. Mais donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une masse énorme et que donc sous l'effet de sa propre gravité, cette masse va comprimer la matière, et au centre vous avez cette énergie thermonucléaire qui au contraire, elle, a tendance à pousser vers l'extérieur, et donc il se crée un équilibre entre les deux. Une étoile, ça n'est rien d'autre qu'un objet en équilibre, donc entre la gravité, le poids de la matière, et la pression qui découle de la fusion thermonucléaire au cœur de l'étoile. Donc voilà, c'est un système qui a un très bon thermostat, du moins pendant une grande partie de sa vie. On va voir que ça peut mal finir. Il y a en physique, une correspondance directe entre pression et température. Si la pression est très élevée, la température va être très élevée. Alors, maintenant, on va faire un petit raisonnement, très simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus la température est élevée, plus ce processus de fusion il est efficace. Bon. Si la température est élevée, la pression est élevée, comme vient de vous dire en physique, loi des gaz parfaits pour ceux qui connaissent. Et si l'étoile est très massive, elle a une gravité très forte, donc elle va avoir une pression très élevée. Donc si vous suivez ces trois pas, vous arrivez à la conclusion que les étoiles massives vont avoir une température centrale plus élevée. Donc premièrement, et donc elles vont être plus chaudes, donc bleues. Donc toutes ces étoiles qui sont de couleur bleue, ça veut simplement dire qu'elles sont chaudes et donc massives. Donc c'est toujours une grosse étoile, une étoile largement plus massive que le Soleil qui sera bleue. Alors bien sûr, c'est une première approximation. On peut rentrer dans certains détails, mais bon, passons. Alors, est-ce que ça, c'est vrai tout le temps ? Bah, pas complètement, parce que une étoile, c'est quelque chose qui n'a pas une durée de vie qui n'a pas une durée de vie limitée, qui n'est pas éternelle, contrairement à ce qu'on croyait il y a quelques siècles. C'est quelque chose qui naît, qui vit et qui meurt. Alors au départ, c'est une phase qu'on ne connaît pas très bien, donc c'est la formation de l'étoile. Donc, vous avez un nuage de matière extrêmement peu dense dans l'univers et qui va petit à petit s'effondrer sur lui-même à cause de sa propre gravité. Bon. Et il va accumuler ce nuage, il va y avoir tellement de matière, cette matière va s'effondrer sur elle-même sous l'effet de sa propre gravité, au point que au cœur de cet objet, on va avoir des pressions très élevées, donc des températures très élevées. Et c'est seulement quand la température sera très élevée, d'un minimum de 3 millions de degrés. Donc là, j'ai appelé ça des degrés Kelvin, mais c'est la même chose à peu de choses près que les degrés Celsius communs. Et ce qui se passe quand on dépasse à l'intérieur de l'étoile cette température, eh ben on met en route la centrale thermonucléaire. On allume les réactions de fusion d'hydrogène en hélium. Et ça, c'est ce qu'on appelle la séquence principale. C'est cette diagonale que je vous ai montrée tout à l'heure, dans le diagramme où on avait placé les étoiles en fonction de leur luminosité et de leur température. C'est là qu'elles passent la plus grande partie de leur vie. Elles vont brûler tranquillement leur hydrogène en hélium, et ça va durer assez longtemps. Alors on va détailler ça un petit peu après. Mais bien sûr, un jour, il va se passer, on va épuiser le carburant, hein, comme dans toute chose qui brûle un carburant. On aura tellement fusionné cet hydrogène en hélium qu'il ne restera plus d'hydrogène. Il ne restera plus que des cendres de la combustion, c'est-à-dire de l'hélium. Et donc, si la réaction s'arrête, la gravité reprend le dessus. Hein, je vous ai dit, l'étoile, c'est un équilibre entre la masse et donc la pression qui comprime et les réactions nucléaires qui poussent vers l'extérieur. Si vous arrêtez la réaction nucléaire, le cœur de l'étoile va se comprimer. Et alors bon, là, c'est pas si compliqué que ça. S'il se comprime, la pression augmente, donc la température augmente, et on arrive à allumer cette réaction de fusion de l'hydrogène en hélium dans des parties plus externes de l'étoile. Plutôt que ça ait lieu qu'au cœur de l'étoile, cette fusion va donc s'opérer dans des couches plus superficielles. Et quelle est la conséquence ? Ça fait gonfler l'étoile. Et donc là, on arrive au cas de la géante rouge. L'étoile gonfle énormément, d'un facteur 10 ou plus. Comme elle gonfle, la surface s'éloigne du cœur, la surface refroidit, donc elle devient rouge. Donc on obtient une géante rouge. D'une étoile qui était initialement petite, éventuellement bleue ou éventuellement jaune. Donc vous voyez qu'avec ces deux paramètres, la masse et l'âge, on a réussi à décrire tous les états d'une étoile. Alors, maintenant quelques échelles de temps. Donc je vous ai dit tout à l'heure que la fusion d'hydrogène en hélium dépend de la température. Je vous ai dit que plus l'étoile était massive, plus la température au cœur était élevée. Donc moralité, les étoiles massives brûlent leur carburant plus vite que les étoiles peu massives. Donc ça, c'est un paradoxe. Vous avez une étoile avec beaucoup de matière qui pèse nettement plus, comme je vais vous montrer, que le Soleil. Et pourtant, elle va avoir une durée de vie beaucoup plus faible. Pourquoi ? Parce que son cœur est plus chaud, que la réaction va beaucoup plus vite que dans le cas du Soleil. Donc les petites étoiles, elles vont vivre tranquillement. Donc là, je vous donne quelques comparaisons. On utilise comme masse, plutôt que de parler de 10 puissance 30 kg, on prend comme référence la masse du Soleil, qu'on appelle M0. Donc, dans le cas du Soleil, on sait que, sous réserve de changements, de bouleversements de la physique qu'on connaît, la durée de vie du Soleil va être de l'ordre de 9 milliards d'années. Et on en est à peu près au milieu. Mais c'est quelque chose qui varie très vite, parce que si vous prenez une étoile qui fait simplement la moitié de la masse du Soleil, vous voyez que sa durée de vie est multipliée par plus d'un facteur 5. Cette étoile de toute petite masse, comme Proxima du Centaure, c'est une étoile qui va être rouge, petite, elle va brûler son hydrogène tranquillement, et elle va avoir une durée de vie beaucoup plus longue. Alors qu'à l'inverse, vous prenez une étoile qui est simplement deux fois plus massive que le Soleil, elle aura une durée de vie beaucoup plus courte. Elle aura épuisé son hydrogène en l'espace de 2 milliards d'années. Et vous avez, si je me rappelle bien, des cas extrêmes. Alors là, c'est un peu des monstres. On commence à rentrer dans le domaine des monstres stellaires. Une étoile qui fait 25 fois la masse du Soleil, en 7 millions d'années, elle a brûlé tout son hydrogène. Alors ça, bien sûr, à l'échelle humaine, 7 millions d'années, 7 milliards d'années, ça ne change pas grand-chose. Je vous rappelle quand même que la vie est apparue sur Terre, a priori, après plusieurs centaines de millions d'années. Donc si on cherche des petits hommes verts, il ne faudra pas les chercher autour d'une étoile massive, parce que la vie n'aura pas eu le temps de se développer, a priori. Bien sûr, la vie peut-être qu'elle se développe d'autres manières que sur Terre, mais une vie telle qu'on la connaît sur Terre n'aura jamais le temps de se développer autour d'une étoile massive, alors qu'au contraire, autour d'une étoile peu massive, elle aura peut-être toute l'attitude de se développer en première approximation. Bon, alors après, peut-être passer plus rapidement sur les différents cas, parce que le devenir d'une étoile va dépendre de cette masse, justement. Si elle est peu massive, une fois qu'elle a gonflé, parce qu'elle a allumé la fusion de l'hydrogène dans ses couches superficielles, elle va éjecter ses couches externes. Elle va tellement gonfler qu'elle va tout éjecter, et il va rester le cœur. Et ce cœur, c'est une naine blanche. Toute petite, puisqu'on a éjecté beaucoup de matière. Blanche parce que très chaud, parce que ça reste les cendres, et donc ça reste quand même, ça va mettre beaucoup de temps à refroidir. Après, si vous avez affaire à une étoile nettement plus, un peu plus massive, il va se passer un deuxième phénomène, c'est que ce qui était les cendres de la première combustion, d'hydrogène en hélium, ces cendres d'hélium vont à leur tour devenir le carburant d'une nouvelle réaction. Et cet hélium, il va se transformer en carbone, en azote, en oxygène, etc. Donc on va recommencer un cycle. Mais là, ça va aller beaucoup plus vite. C'est ce que je vais vous montrer après. Là, je vous résume en petit film le processus donc de la durée de vie d'une étoile, comme le Soleil. La naissance, une dizaine de milliers d'années sur la séquence principale, la phase géante rouge, l'évacuation des couches externes et le cadavre stellaire qui a une naine blanche. Donc ça donne lieu à de magnifiques clichés. Donc là, ce que vous avez, on appelait ça une nébuleuse, parce que si vous regardez dans le ciel, c'est quelque chose qui est un peu flou. Mais en fait, ce sont toutes les couches externes de l'étoile qui sont éjectées. Et vous avez au cœur, ici, c'est pas un hasard, ça c'est une étoile du fond du ciel, ou qui est peut-être même en avant-plan, je ne sais pas. Mais celle-ci, on sait que c'est le cœur de l'étoile, donc la naine blanche, c'est le cadavre de l'étoile, c'est ce qui reste une fois que toutes les couches externes ont été éjectées. Et là vous avez un autre exemple, pareil, on voit très bien, celle-ci, vous l'oubliez, elle fait partie du paysage, du fond, mais celle-ci, c'est le cœur nucléaire, c'est ce qui reste du cœur nucléaire de l'étoile. Et ça, c'est toutes les couches externes. Le Soleil, a priori, finira sous cette forme, si on a bien compris l'évolution stellaire. Alors, après, ça continue. Plus l'étoile est massive, plus l'évolution sera complexe. Et ce que je voulais vous montrer surtout ici, c'est que, je vous ai dit, l'hélium va passer de cendre à carburant, il va donner du carbone. Et en fait, tous les éléments qu'on connaît, sont créés au cœur des étoiles, qui finiront éventuellement, si elles sont très massives, sous forme de supernova. Donc c'est ce que disait Hubert Reeves dans ses bouquins, un de ses premiers bouquins qui s'appelait Poussière d'étoiles. C'est que nous, on est constitué d'eau, donc d'oxygène, de carbone, de calcium, de tout ce que vous voulez. Et tout ça, ce sont des éléments qui ont été fabriqués au cœur d'une étoile. Cette étoile a explosé sous forme de supernova parce qu'elle était relativement massive. Et ça a été ensuite recyclé, ce matériau a été recyclé pour former une nouvelle étoile, un nouveau système, et nous. Donc quand Hubert Reeves disait que nous sommes poussière d'étoiles, c'est au sens littéral qu'il faut le prendre, ce qui nous constitue, à part l'hydrogène et l'hélium, mais il y a assez peu d'hélium dans le corps humain, c'est vraiment, ça vient du cœur d'une supernova. Et bien sûr, si on a affaire à des étoiles encore plus massives, là, ce sont les fameux trous noirs, parce que l'étoile est tellement massive qu'à la fin, il n'y a plus aucune réaction nucléaire qui arrive à contrebalancer la gravité, et donc on a affaire à un objet tellement massif qu'il retient la lumière, et donc le fameux trou noir. Là, je voulais vous donner des ordres de grandeur. Donc, je vous ai dit que la vie, pour une étoile très massive, au début, elle fabrique de l'hélium à partir de l'hydrogène. Ça se fait à une température, dans le cas d'une étoile massive, de 40 millions de degrés, et ça va durer 7 millions d'années. Bon. Ensuite, elle va brûler cet hélium en carbone et en oxygène. Ça se fait à une température beaucoup plus élevée, 200 millions, et ça va durer seulement 500 000 ans. Et vous voyez l'enchaînement. Le carbone va donner du néon et du sodium, température de 1 milliard de degrés, et ça dure 200 ans. Et vous voyez la suite. À la fin, on arrive au silicium qui se transforme en fer. C'est la dernière réaction qui peut avoir lieu. Ça se fait à 3 milliards de degrés et ça dure une journée. Ce cycle, les cycles vont en se raccourcissant de plus en plus. Donc, vous voyez, c'est un enchaînement qui mène inéluctablement à l'explosion en supernova. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ces réactions sont de moins en moins efficaces. À chaque fois, les réactions nucléaires vont essayer de lutter contre la pression, contre la masse, contre la gravité qui écrase l'étoile, mais il n'y a rien à faire, la gravité l'emporte sur la fin. Donc voilà, c'était un résumé. Selon qu'on ait affaire à une petite étoile, 0,5 masse solaire, ou 10 masses solaires, ou 15 masses solaires, bah à la fin, on aura un cadavre entre guillemets différent. Les petites étoiles donnent lieu à une naine blanche, hein, elles ont évacué les couches externes, on n'a plus que le cœur. Si on a une masse intermédiaire, cette naine blanche, elle va tellement se comprimer que c'est une étoile à neutrons. C'est un objet qui est assez particulier, qui fait que quelques dizaines de kilomètres de diamètre, ce qui pour une étoile est furieusement petit. Et si on va encore plus loin, donc on a affaire au trou noir. Donc là, vous avez tous les termes que vous pouvez entendre, géante bleue, géante rouge, naine blanche, trou noir. Et ben, vous voyez que ça se décline avec deux paramètres, l'âge de l'étoile et sa masse. Et avec ça, on arrive à décrire à peu près tous les états des étoiles. Pour finir, je reviens à ce fameux diagramme où on avait représenté les étoiles en fonction de leur température, avec les étoiles chaudes à gauche, les étoiles froides à droite, et en fonction de leur luminosité. Ici, la séquence principale, donc là, je vous rappelle, c'est là où les étoiles brûlent tranquillement leur hydrogène en hélium. Là, les étoiles de petite masse, rouges, les étoiles de masse assez importante, qui sont plutôt plus chaudes, donc plus bleues. Le Soleil, au milieu. Les étoiles géantes, donc en fin de vie. Et donc voilà ce que vous avez à droite, bah c'est le chemin des étoiles dans ce diagramme, parce que justement, ce diagramme, c'est un peu un indicateur de leur âge. Donc par exemple, vous avez le Soleil qui est ici, qui va y rester, qui va évoluer doucement en 10 milliards d'années, donc de la partie gauche à la partie droite de cette bande diagonale, qui va épuiser son hydrogène, qui va gonfler, qui va devenir une géante. Ensuite, il va éjecter ses couches externes. Donc, on va voir son cœur, donc ça va se réchauffer, mais va rester à peu près à luminosité constante. Elle va se déplacer comme ça. Et à la fin, elle devient de moins en moins brillante. Elle a tellement éjecté de matière qu'elle ne brille plus. Elle devient une naine blanche et se retrouve ici. Donc voilà, c'est le chemin que vous avez ici. Hein, c'est le même diagramme. Vous avez l'évolution du Soleil au cours du temps. Les étoiles très massives, elles, bah, elles partent d'ici. Elles deviennent des super géantes quand elles ont brûlé tout leur hydrogène et elles vont ensuite exploser en supernova. Voilà un petit cours de physique stellaire. en résumé. Alors maintenant, pour finir, qu'est-ce qu'on va faire avec Coro ? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans le cas des étoiles ? Alors on pourra toujours comprendre plus dans le détail l'évolution d'une étoile pour mieux mesurer son âge, et ça devient de plus en plus important quand on détecte des exoplanètes autour de ces étoiles, parce qu'on va vouloir savoir quel est l'âge de ces objets, si on a justement la chance d'y trouver une vie développée ou pas. Mais il y a aussi quelque chose de très important dont je n'ai pas parlé, c'est le champ magnétique. Donc vous connaissez peut-être les phénomènes d'aurore boréale ou d'éruptions solaires. Tout ça, c'est quelque chose qui est lié au champ magnétique. Il y a les taches solaires aussi. Vous avez un cycle de 11 ans. Bon, là, je pourrais refaire une autre conférence sur le sujet, mais je sens qu'il vaut mieux que je m'arrête. Tout ça, ce sont des phénomènes qu'on comprend très mal, même dans le cas du Soleil. Et on espère, en étudiant d'autres étoiles, donc des étoiles plus petites, plus grosses, plus âgées, plus jeunes, mieux comprendre ce phénomène de génération de champs magnétiques qui a une influence directe sur la Terre. Hein, quand une éruption solaire a lieu, si vous avez des satellites en orbite autour de la Terre, vous pouvez griller les satellites, donc c'est quelque chose qui peut avoir une importance même pour la vie quotidienne, maintenant qu'on dépend énormément des satellites en orbite. Donc tout ça pour vous dire que comprendre les étoiles, c'est pas complètement de la recherche en pure perte, ça n'est jamais de la recherche en pure perte, c'est aussi quelque chose qui peut avoir des conséquences sur la vie quotidienne. Voilà, je vais m'arrêter là. Et bien sûr, maintenant, je suis prêt à répondre à toutes les questions.
Donc merci beaucoup. Alors un spectre très large pour faire une analogie avec l'étude des étoiles, qui j'espère va susciter en fait beaucoup de questions, parce qu'il y a beaucoup de pistes éventuellement à continuer à explorer. Donc voilà, n'hésitez pas à lever le doigt et je vous apporte le micro pour poser une question.
Merci pour ce bel exposé. Oui, vous nous avez bien expliqué effectivement comment le cœur d'une étoile, très très chaud, plusieurs millions de degrés, arrive comme ça un petit peu à disperser son énergie jusque dans les couches externes. Et chaque étoile dans sa surface, grosso modo, on tombe là dans le millier de degrés, jusqu'à 30 000 peut-être pour les étoiles bleues. Chacun comprend avec nos exemples sur Terre que effectivement une énergie comme ça qui se propage dans toutes les directions de l'espace diminue un feu de cheminée. Plus on s'en éloigne, moins on va en profiter. Et j'ai toujours eu du mal à comprendre, est-ce que Coro apporte des réponses là-dessus, comment se fait-il que pour notre Soleil, c'est le cas aussi pour d'autres étoiles, ce million de degrés qui arrive à 5600 degrés à sa surface, on monte un petit peu plus en altitude et la couronne solaire explose en 100 000 ou millions de degrés.
Alors, bon, ça c'est un grand classique. Comme je disais, j'ai une autre présentation dessus, mais là je pense que je vais pas vous la faire ce soir. C'est pour ça que je parlais de champ magnétique, parce que effectivement, plus on s'éloigne d'un radiateur, plus il fait frais normalement. Ce qui peut se passer, c'est que l'énergie, la chaleur, l'énergie se transporte sous une autre forme. Et ce qui se passe, a priori, dans le cas de la couronne solaire, donc, hein, je rappelle, surface du Soleil, 6000 degrés, celle que vous voyez à l'œil nu, quoi, la regardez pas trop quand même. Et si on s'élève de 2000 km au-dessus de cette surface, je vous rappelle, hein, le Soleil, c'est 1 400 000 km, donc on s'élève, on fait un saut de puce au-dessus de la surface, on se retrouve dans un milieu qui a 100 000, puis très rapidement 1 million, 2 millions de degrés, alors qu'on s'éloigne a priori de la source de chaleur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a largement assez d'énergie pour chauffer l'atmosphère du Soleil, c'est cette couronne. Simplement, le problème, c'est qu'il faut la transporter sans qu'elle se dépose. Elle existe largement sous la surface du Soleil. Il y a une énergie mécanique, la convection. Donc je vous ai pas parlé des différentes méthodes de transport de l'énergie, mais ça peut se faire par rayonnement. Quand vous vous approchez d'une ampoule, bah vous sentez, quoi, sauf si c'est une ampoule basse tension, mais si c'est une ampoule à incandescence, bah vous sentez la chaleur, parce que l'énergie se transporte sous forme de rayonnement. Dans une étoile, l'énergie peut se transformer sous forme de convection, c'est ce qui se passe quand vous chauffez une casserole d'eau chaude, vous chauffez le dessous d'une casserole d'eau chaude, bah vous avez mis en place de cellules de convection, c'est ce qu'on avait ici, dans le cas du Soleil. Là, vous avez la source de chaleur. Vous avez une zone où, là, qu'on appelle radiative parce que l'énergie se transforme sous forme de rayonnement. Et là, vous avez la mise en place de cellules de convection, c'est-à-dire que la matière chaude se met à monter, va à la surface, se refroidit et redescend comme dans une casserole d'eau chaude. Et alors après, ce qu'il faut, c'est trouver un moyen pour chauffer cette couronne qui est à 1 million de degrés. Il faut trouver un moyen de transporter l'énergie sans qu'elle se dépose. Et c'est là que le champ magnétique entre en ligne de compte. Il y a un prix Nobel à la clé, mais ce n'est pas encore bien compris. On soupçonne que le champ magnétique permet de transporter l'énergie qui est mécanique ici, l'énergie de la convection par exemple. Il permet de lui faire traverser le bas de l'atmosphère solaire sans que ça se dépose sous forme de chaleur, puisque c'est une énergie mécanique. En fait, c'est une oscillation qui se propagerait vers l'atmosphère. Et quand cette oscillation atteint une certaine altitude dans l'atmosphère, elle arrive à se transformer en chaleur. Elle se retransforme en chaleur. Donc, si vous voulez, c'est l'énergie, c'est quelque chose qui peut prendre différentes formes. Et c'est ça qui permettrait d'expliquer qu'elle ne se dépose pas sous forme de chaleur à une certaine altitude, mais qu'elle le fait, qu'elle peut le faire un peu plus haut. Sauf que, c'est a priori des oscillations magnétiques, mais ça reste encore à comprendre. Est-ce que Corot nous permettra de plus avancer dans ce domaine ? C'est pas forcément la meilleure manip, c'est pas forcément la meilleure mission spatiale pour ça, parce que donc je vous ai dit qu'il y avait un rapport entre la couleur et la température. Le problème, c'est que quand on atteint le million de degrés, là, on est dans le domaine des rayons X. On n'est plus dans le domaine du visible, du domaine visible perçu par l'œil humain. On est dans le domaine des rayons X, et Corot n'observe pas dans le domaine des rayons X, il observe dans le visible. Donc à partir de là, ce n'est pas le meilleur outil pour comprendre les couronnes stellaires chaudes, mais on sait très bien que dans beaucoup d'étoiles, si ce n'est toutes, présentent cette caractéristique d'atmosphère très chaude pour une surface nettement plus froide.
Oui, merci pour ce magnifique exposé là. J'aurais voulu juste une petite précision. Est-ce que les cendres de l'hélium ne s'allument qu'au stade de la naine blanche ? Ou bien est-ce qu'il n'y en a pas un peu au stade antérieur ?
À partir du moment où c'est une naine, c'est que c'est le cœur inerte de l'étoile qui reste. Donc il n'y a plus de combustion. Donc si la température n'a pas été assez élevée, effectivement, on a un cœur d'hélium, ce sont des cendres. Mais si ça s'allume, ce sera avant. Ce sera toujours dans la phase géante rouge, dans le cœur de l'étoile, donc qui se comprime pendant que c'est un peu particulier. Pendant que les couches externes s'étendent, le cœur lui s'effondre. Et c'est là qu'on a allumage de l'hélium pour donner donc carbone, azote, etc. Mais c'est pendant la phase géante rouge.
Donc c'est pas dans la naine blanche de la nébuleuse planétaire,
non,
c'est dans le cœur de la géante rouge. Quoi.
Voilà, ouais. tout ce qui est naine correspond à la mort de l'étoile en fait. Il y a plus de réaction nucléaire, elle a éjecté. Alors si il y a des exceptions, mais bon, passons. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une naine blanche est un cadavre stellaire qui a priori n'émet plus d'énergie. Et c'est quelque chose qui se refroidit. C'est très chaud parce que c'est le cœur, c'était à 10 millions de degrés, donc ça reste quand même à des dizaines de milliers de degrés, et ça va se refroidir pendant une éternité.
D'accord, merci.
Bonsoir. J'aurais aimé comprendre comment Corot détecte les oscillations en fait, physiquement.
Bon, alors je suis passé là-dessus, je voulais pas... Il y a deux manières de détecter les oscillations. Donc dans le cas du Soleil, je vous ai dit, on mesure les déplacements de la surface. On fait ça par effet Doppler, classique, méthode utilisée par la police pour mesurer la vitesse de votre voiture ou de votre moto. On envoie un rayonnement, on récupère un rayonnement et sa longueur d'onde a varié si l'objet se déplace. Bon. Il y a un autre aspect, c'est que donc on va imaginer que l'étoile pulse comme ça, de manière simple, elle se dilate, elle se contracte. Et bien, ça va entraîner une variation de luminosité. Et c'est ça qu'on mesure. On mesure ce photon qui manque ou qui est en plus par rapport aux millions de photons que l'étoile émet en permanence. Il y a une petite oscillation de la luminosité comme il y a une oscillation du déplacement de la surface de l'étoile. Ça va de pair. C'est la même chose.
Localisée, quoi.
Alors, très bonne remarque. Dans le cas du Soleil, on va pouvoir former une image de l'étoile, du Soleil. Et donc, on va pouvoir voir des oscillations de très petites longueurs d'onde spatiales. On va pouvoir voir une partie monter, ou une partie descendre, ou une partie diminuer en luminosité, alors qu'une autre partie augmente en luminosité. Pour une étoile, on ne pourra pas, bien sûr. Et donc, on va voir principalement ce qu'on appelle le modèle égal zéro, c'est le mode de base, c'est celui où l'étoile se dilate et se contracte. Et on va quand même en voir d'autres, un peu plus complexes, mais que, pour parler en termes, que des grandes longueurs d'onde spatiales. On ne verra pas les petites oscillations, comme sur la guitare, où on voyait des motifs très, très rapprochés, ça on ne pourra pas le voir. Alors je dis ça maintenant, peut-être que dans 20 ans, on sera capable de faire des images des étoiles et de voir ces choses-là. Il y a même des gens qui arrivent à voir un peu ces petites longueurs d'onde spatiales, ces oscillations de petite taille, avec des astuces instrumentales. Bon, mais a priori, c'est quelque chose de très difficile pour une étoile et on se contente des plus grandes échelles spatiales, donc des pulsations de grande taille.
Donc moi, j'aurais un tout petit complément à demander. Au début de l'intervention, vous aviez dit que chaque étoile avait sa propre vibration, mais deux étoiles identiques en taille, en masse et en température aura la même variation, oscillation.
Alors, très bonne remarque. Simplement, donc là, je vous ai donné les principes de base de l'évolution stellaire. Après, il y a d'autres paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Donc là, ça peut être plus des détails, mais par exemple, la composition chimique de l'étoile va avoir une assez grande importance. Si vous prenez les étoiles qui se sont formées au début de l'univers, au début de l'univers, à ce qu'on en comprend à l'heure actuelle, à chaque fois que je dis un truc, faut bien garder en tête que c'est selon l'état des connaissances actuelles. Au début de l'univers, il n'y avait que des atomes d'hydrogène et d'hélium. Bon, il y a eu des étoiles massives qui ont explosé en supernova, qui ont donc créé des éléments nouveaux, carbone, je vous ai dit, oxygène, etc., qu'on appelle des éléments lourds. Et comme je vous ai dit, ces éléments lourds, ce carbone, cet oxygène, il va être recyclé dans une nouvelle étoile, et même si ce sont des pourcents, des traces, ça va avoir une grande importance dans le transport de l'énergie, parce que ces éléments, ils sont entre guillemets moins transparents, ils vont s'opposer de manière assez efficace au transport de la lumière par rayonnement, beaucoup plus que l'hydrogène et l'hélium. Donc vous prenez une étoile de même taille, de même âge, etc., etc. S'il y a des traces, s'il y a 1%, c'est même pas 1%, c'est moins que ça, s'il y a des traces de carbone, etc., d'éléments lourds dans la composition chimique de cette étoile, eh bien, le transport d'énergie ne va pas se faire de la même manière et donc elle n'aura finalement pas la même taille. Donc, pour qu'elle ait exactement la même taille et le même âge, etc., il faut qu'elle ait exactement la même composition. Donc ça, c'est un paramètre qui va changer, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec Corot, essayer de comprendre l'influence de ça. Il y a un autre phénomène qui va influer, c'est la rotation de l'étoile. Donc je ne vous l'ai pas dit, mais les étoiles comme la Terre, comme les planètes, sont en rotation sur elles-mêmes en général. Certaines en rotation lente, certaines étoiles vont tourner sur elles-mêmes, comme le Soleil, en 30 jours, plus. D'autres vont être en rotation rapide. Certaines étoiles tournent sur elles-mêmes, elles font la même taille que le Soleil, voire elles sont plus grosses, et elles tournent sur elles-mêmes en 3 à 4 jours. Ça fait que l'étoile s'aplatit, mais surtout ça fait qu'à l'intérieur, il y a des phénomènes de transport. Parce que vous avez, si elle s'aplatit, les pôles vont être plus chauds que l'équateur, et la nature a toujours tendance à équilibrer. Quand vous avez un endroit où il fait chaud, un endroit où il fait froid, et ben, il y a un phénomène de transport qui se met en place pour équilibrer les températures. Donc vous avez mélange de la matière à l'intérieur de l'étoile, et ça va changer son empreinte digitale, si je puis dire, sa signature acoustique. Donc, quand je vous montre un spectre, je vous ai montré des spectres acoustiques, vous avez vu, ce sont des raies, voilà, comme ça. Si vous changez la composition chimique de l'étoile, là, vous ne voyez pas la différence. Mais si vous regardez dans le détail, là, vous allez voir que le pic, eh ben, il est un petit peu déplacé, que l'espacement régulier, qui est régulier entre pics, mais il est légèrement plus grand, légèrement plus petit. Mais ce sont des effets de second ordre, on va dire.
Et du coup, vous avez presque déjà répondu à la deuxième question que j'avais en tête, c'était sur l'âge des étoiles. C'est-à-dire, en fonction de la masse, on sait si l'étoile va vivre un certain temps, mais lorsque l'étoile est dans la séquence principale, on ne sait pas quand elle est née. Ou très, très, très approximativement, et donc par Corot, on va connaître la composition chimique et du coup remonter à peu près à l'âge de l'étoile, enfin à quand est-ce qu'elle est apparue.
Tout à fait, l'âge d'une étoile, en fait, c'est simplement son pourcentage d'hélium, son pourcentage de cendre par rapport au pourcentage de carburant. On arrive à mesurer avec ces notes de musique, avec ces fréquences, on arrive à mesurer la densité au cœur de l'étoile, comme on mesure la température. Si on mesure la densité, on va pouvoir remonter à la fraction d'hélium et la fraction d'hydrogène, donc la partie de carburant brûlé par rapport à la partie de carburant non brûlé, donc à l'âge. Et c'est comme ça qu'on sait que le Soleil est à peu près au milieu de sa vie. Non, on le savait auparavant, mais on a confirmé que c'est bien comme ça, et c'est comme ça qu'on mesure l'âge des étoiles, en tout cas avec Corot.
Et pour donner une indication, je ne sais pas si c'est une question piège ou pas, mais en termes de quantité d'étoiles observées par Corot, ça se compte en dizaines de milliers, centaines.
Alors, il y a deux réponses possibles. Je vous ai dit que Corot avait deux objectifs scientifiques, la compréhension de l'intérieur des étoiles et la recherche d'exoplanètes. Pour observer les oscillations des étoiles, il faut qu'elles soient brillantes. Ce sont des variations encore plus faibles. Donc il faut qu'on descende à 10-6 en précision, une partie par million. Il faut que ce soit des étoiles brillantes. Des étoiles brillantes, il n'y en a pas tant que ça. Donc pour faire de la sismologie stellaire, Corot a observé une centaine d'étoiles. Quand on cherche des exoplanètes, si vous vous rappelez, je vous ai dit que pour avoir la chance de voir un transit, hein, donc de voir la planète passer devant l'étoile, bah, il faut que l'orbite des planètes soit dans la bonne direction. Si jamais on a l'étoile là et la planète qui tourne comme ça, aucun transit. Donc statistiquement, ils font tomber sur les étoiles où le plan de l'orbite est dans le plan de visée. Et c'est de la statistique. Qu'est-ce qu'on fait ? On observe un très grand nombre d'étoiles. Et donc là, pour la recherche d'exoplanètes, Corot a observé de l'ordre de quoi, plus de 100 000 étoiles. Mais ce sont des étoiles trop faibles pour qu'on arrive à faire de la sismologie, sauf cas particulier, les géantes rouges, mais bon. Et d'ailleurs, quoi, si je peux vous le dire, ça a été une surprise. Comme quoi, la recherche et la science, c'est quand même, on faut toujours s'attendre à des surprises. On cherchait des exoplanètes, et autour des géantes, on ne s'attendait pas à trouver d'exoplanètes, donc c'était des objets qu'on ne regardait pas, mais il y en avait quand même dans le champ, bon, et on s'est aperçu qu'elles oscillaient. Parce que les géantes sont tellement grosses que leurs oscillations sont aussi plus importante, et là c'est pas des parties par million, c'est pas des parties par milliers, mais c'est des centaines de parties par million, et on a détecté les oscillations dans les géantes rouges, alors que c'était absolument pas prévu du tout. Donc ça a été un bonus. Il y en a eu d'autres, mais ça a été un des bonus les plus importants.
Merci.
Est-ce qu'une étoile soumise à l'influence gravitationnelle d'une autre étoile, est-ce que en étoile double par exemple, est-ce que ça a des répercussions sur son oscillation ?
Alors oui.
Et plus largement une planète éventuellement. Je sais pas.
C'est moins évident parce que sa masse est nettement plus faible, donc elle va forcément moins influer. Mais c'est quelque chose justement qu'on est en train de creuser avec Corot. Ce qui se passe classiquement dans le cas de binaires rapprochés, si c'est une binaire éloignée, l'influence gravitationnelle est trop faible. Il se passe pas grand chose. Si on a affaire à des binaires rapprochés, donc là c'est des systèmes un peu particuliers qu'on voit dans les films de science-fiction ou dans les livres de science-fiction, mais donc voilà, il va faire jour tout le temps parce que vous avez je suis pas sûr qu'il y ait des planètes autour de ces étoiles parce qu'il y a des instabilités gravitationnelles. Bon, mais la science-fiction c'est sympa. Là, ce qui peut se passer, c'est que une étoile va exciter. Vous voyez que s'il y a une oscillation qui a la même fréquence, la même période que la période orbitale, et ben la deuxième étoile va exciter cette oscillation. Et donc c'est cette oscillation qui va dominer. Je ne vous ai pas parlé des phénomènes d'excitation parce que bon là, un effet de marée. Par effet de marée. Bon, après il y a des cas encore plus particuliers où là c'est pas des oscillations, mais ce qui se passe, si vous avez deux étoiles très proches, une un peu plus massive que l'autre, elle va atteindre son stade de géante rouge plus tôt que l'autre. Et donc elle va gonfler, et elle va tellement gonfler que l'autre étoile va aspirer la matière que l'autre est en train d'éjecter. Et donc là, vous avez des choses très marrantes, parce qu'une étoile qui, au départ, aurait dû avoir une évolution stellaire donnée parce qu'elle était d'une masse donnée, va repartir avec du nouveau, pas forcément du nouveau carburant, mais elle va changer de statut. Elle va passer d'une étoile peu massive à une étoile plus massive, et donc elle peut donner des objets assez bizarres. Donc il peut y avoir des transferts de matière. Ça s'applique à à des cas assez peu nombreux. Il faut vraiment que ce soit une orbite rapprochée. Mais il faut savoir que les étoiles simples ne sont pas forcément la norme. Il y a énormément d'étoiles doubles dans l'univers. Et donc, bien sûr, vous avez tous les cas. Des étoiles très distantes, des étoiles très, très proches. Il y a des systèmes triples aussi, Proxima du, quoi, Alpha du Centaure, la deuxième et Proxima, c'est au moins un système triple. Est-ce que ça, il peut y avoir des instabilités, hein. Plus il y a d'objets qui tournent les uns autour des autres, plus vous avez de chances d'en éjecter. Mais voilà, les systèmes triples existent. Bon. Moi, il n'y a pas de problème.
J'aurais aimé savoir le champ photographique de Corot. Le champ.
Je ne suis pas du tout un instrumentaliste. Un télescope, je sais à peine ce que c'est. Non, je ne peux pas vous répondre précisément. Je vais dire une bêtise. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà. C'est en étoile faible, de magnitude, pour être précis, de magnitude au-delà de 11, il y a 20 000 étoiles par champ. Et en étoile brillante, magnitude 6 à 8, il y a une demi-douzaine d'étoiles par champ. Mais alors la taille que ça fait en arc-seconde ou en degrés, je ne sais plus. Ce qu'il faut savoir aussi, ça c'est les vicissitudes d'une manip spatiale. Je vous ai dit à un moment, je ne sais pas si vous avez vu, qu'il y avait 4 détecteurs. Quand on fait une manip spatiale, on essaye souvent de doubler tout. Parce que s'il y en a un qui tombe en carafe, on a le deuxième système qui fonctionne. Et au départ, Corot avait donc 4 détecteurs. Et puis un beau jour, il y a deux ordinateurs de bord. Il y en a un qui a rendu l'âme. Et donc maintenant, Corot ne voit que la moitié de son champ de vision initial. Mais on a quand même, ça marche quand même. On touche du bois, mais et donc la mission peut s'arrêter. On va demander une extension. Alors pareil, oui, encore une petite histoire. Normalement, la manip était prévue pour durer 2 ans et demi. Voilà, on aurait donc dû arrêter au moins l'année dernière. Ça a été un tel succès que le CNES, quand on leur a demandé, nous on voudrait bien continuer. On a serré la vis côté financier, mais la mission a été prolongée une première fois jusqu'en 2013. Et là, après-demain, je vais à une réunion, on va essayer de redemander, et a priori ça pourrait marcher, une deuxième extension de la mission qui durerait jusqu'en 2016. Donc d'un côté on fait des instruments qui ne doivent pas tomber en panne, et on essaye de doubler les systèmes, etc. Et ça tombe tellement peu en panne que on arrive à avoir des missions qui durent beaucoup plus longtemps, parce qu'une fois que c'est lancé, on a payé le principal. C'est pas toujours, il y a encore des frais, mais on a quand même payé le principal, donc autant continuer. Vous avez un cas très particulier où je bossais sur cette manip il y a longtemps, la manip SOHO, qui elle observe le soleil, qui a été lancée en fin 95. Elle devait durer 2 ans, avec une extension possible, mais vraiment, si tout allait bien, à 6 ans. Et elle fonctionne encore. Donc vous voyez, 95, ça fait 15 ans, plus de 15 ans qu'elle est en orbite. 15 ans qu'elle nous... Alors, certains instruments sont tombés en carafe. Voilà, mais là... on est à presque 3 fois la période... Non, on est... La période nominale, c'était 2 ans. Et la période maxi, c'était 6 ans. Et là, on en est à plus de 15 ans. 16 ans. Donc, on ne sait pas combien de temps durera Corot, mais on espère.
C'est parce que lorsqu'un satellite est lancé, on veut vraiment s'assurer de la durée minimale, qu'on va en quelque sorte et parfois surdimensionner l'appareil pour que ça dure vraiment la durée. Du coup,
Tout est surdimensionné parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un problème, et c'est ce qui a sauvé certaines manips. Mmh. Après, tout peut arriver. Si ça explose au départ, c'était pas la peine de surdimensionner.
Après, les seules missions qui ont vraiment une durée de vie à peu près déterminée, c'est toutes celles qui utilisent un refroidissement.
Effectivement.
Comme
toutes celles qui observent dans
l'infrarouge. Et là, c'est des durées de vie relativement courtes, de l'ordre de quelques mois, quelques années, mais on sait que ça ne peut pas aller.
Il y a un autre cas, il y a l'expérience stéréo. Stéréo, c'est deux satellites qui observent le Soleil, qui ont été lâchés sur l'orbite de la Terre. Mais l'un en avance, et l'un en retard, et l'un en avance par rapport à la Terre. Donc la Terre tourne autour du Soleil, et il y en a un qui freine un peu, et l'autre qui accélère. Mmh. Ça permet d'avoir donc une observation stéréoscopique du Soleil. Sauf qu'au bout d'un moment, ils sont passés de l'autre côté. Donc on peut même plus communiquer avec eux. Il n'y a plus de télémétrie, plus de données. Donc ils sont encore là, ils fonctionnent encore. Si, alors il faudrait peut-être attendre qu'ils fassent le tour. Oui. Mais bon, là, il ne faut peut-être pas abuser.
Est-ce qu'on a une estimation de la durée, comment dire, quand toute la matière sera consumée, je veux dire quand l'univers va s'éteindre? Est-ce qu'on a une estimation voilà. de ça?
Alors là je, comme je vous ai dit, je préfère de parler des choses que je connais. Là, il faudrait demander à un cosmologue. A priori, l'univers va mal finir. Il va finir froid et sombre, puisque, a priori, les étoiles finissent soit en trou noir, soit en naine blanche qui se refroidit, devient une naine, pas brune, une naine brune, c'est autre chose, mais une naine noire. Donc, a priori, l'univers sera immensément grand, froid et sombre. Si on prend, comme je vous ai montré, les dernières étoiles à s'éteindre seront les moins massives, les plus petites masses, donc 0,5 masse solaire, 50 milliards de durée de vie. Donc ça peut être un ordre de grandeur. Dans 50 milliards d'années après le Big Bang, donc on en est a priori à 13, donc on va dire dans une quarantaine de milliards d'années, on pourrait avoir un univers uniquement formé de naines blanches. Mais je ne m'avancerai pas. Je pense que la physique et l'astrophysique feront des progrès. Quand on voit l'allure à laquelle ça va, peut-être qu'on s'apercevra que, par exemple, comme Stephen Hawking l'a suggéré, que les trous noirs finissent par exploser. Donc, est-ce que l'univers va passer par un cycle, ou est-ce qu'au contraire, il va s'étendre de manière infinie? A priori, oui, mais c'est la réponse à l'heure actuelle. Il faut être un peu humble et se rappeler que parfois, on a dit des trucs et 5 ans après, on s'est aperçu du contraire.
Donc, tous les éléments chimiques du tableau de classification sont générés par les soleils?
Par les étoiles, oui. Sauf l'hélium et l'hydrogène et l'hélium qui ont été créés, toujours selon ce qu'on comprend actuellement, au moment du Big Bang.
Mais on dit que les noyaux plus gros sont plus instables. Est-ce qu'il y a un équilibre entre les petits atomes, les protons qui font une fusion, et les gros noyaux qui sont instables? Est-ce qu'il y a certaines couches de certaines étoiles qui font des réactions de fission pour régénérer d'autres noyaux de taille plus moyenne?
Alors bon, là, il faudrait faire un cours de physique nucléaire, donc je vais le faire très vite. Donc la matière est formée de protons et de neutrons. Tant que vous fusionnez des protons et des neutrons jusqu'à donner du fer, ce sont des réactions exothermiques. Elles dégagent de l'énergie. Quand vous allez au-delà du fer, donc c'est 56, alors je ne sais jamais, 56 neutrons, protons, oui. Quand vous allez au-delà du fer, il faut apporter de l'énergie pour former des noyaux plus lourds, plus complexes. Dans une supernova, c'est ce qui se passe parce que l'étoile, bon, je suis passé vite, l'étoile s'écroule. Donc il y a un réservoir d'énergie important, et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire des éléments lourds, parce qu'on arrive à leur apporter de l'énergie. Mais s'il y a des éléments, une fois que ces éléments lourds sont créés, soit ils sont stables, et donc vous avez du plomb, vous avez quoi, tous les éléments lourds qu'on connaît sur Terre, soit c'est des isotopes instables qui vont faire de la fission, effectivement, mais c'est, à l'échelle d'une étoile, c'est ridicule en termes d'énergie. En termes de planète, c'est loin d'être ridicule. Si la Terre a toujours une activité géophysique, si on a des tremblements de terre, la tectonique des plaques, etc., c'est dû à la chaleur dégagée par toutes ces réactions de fission nucléaire. Mais à côté de ce que dégage une étoile, le Soleil dégage cette quantité d'énergie en une fraction de seconde. Donc c'est la fission nucléaire, la disparition des éléments lourds a un rôle complètement négligeable. D'accord. À ce qu'on en sait, à ce que je sais. Bon, on résiste bien.
Et bon, c'est peut-être un peu maladroit, mais par rapport au cycle de vie des étoiles, une fois qu'il y a une supernova ou quelques supernovas, que les nuages de matière ont migré et arrivent à se recondenser pour en reformer une nouvelle, on a l'impression qu'on peut reproduire de l'énergie indéfiniment. Mais en termes de système d'énergie, comment on dit ça déjà, de conservation de l'énergie, qu'est-ce qui apporte l'énergie supplémentaire c'est que la gravité? Donc en fait, c'est la matière qui génère la gravité.
Oui, donc, c'est la masse, oui.
Donc c'est uniquement la masse qui par elle-même ne peut que générer de l'énergie, quoi.
Oui,
en fait, c'est comme si R descendait à un niveau plus stable. Parce qu'en fait, c'est une partie de sa masse qui part en rayonnement. Donc ce que vous avez montré, là, les premiers schémas. Mais donc il y a de la masse de perdu au fur et à mesure. Même si c'est des nuages recyclés qui ont donné des nouvelles étoiles.
Oui, d'accord. La masse perdue, c'est une fraction. La partie, donc E égale MC2, l'énergie sous forme de rayonnement, elle vient au départ d'une énergie sous forme de matière, de masse. C'est une dans le cas du Soleil, c'est une fraction, je crois que c'est 0,7%.
Donc les nuages de matière, après des supernovas, peuvent se recycler encore longtemps, il reste encore beaucoup de masse, quoi.
Sauf qu'il faut qu'il reste de l'hydrogène. Parce que la fusion commencera par l'hydrogène. S'il n'y a plus d'hydrogène, vous avez vu qu'il faut atteindre des températures beaucoup plus élevées pour qu'il y ait fusion, donc dégagement d'énergie. Donc, quand on aura épuisé tout l'hydrogène, on pourrait avoir des étoiles qui se forment, qui commencent dès l'hélium, peut-être, hein, j'en sais rien. Dans un livre de science-fiction, il faut peut-être... Mais déjà, ça va être très... vous avez vu que c'était très court. Plus les éléments sont lourds, plus la combustion est rapide. Donc, oui, pourquoi pas, mais en fait, avant qu'on ait brûlé tout l'hydrogène, je pense qu'il y a, de la marge.
Ouais, donc, plus c'est recyclé, plus c'est difficile.
Il faut rappeler le rapport. Donc, l'univers est âgé de 13 milliards d'années. Depuis 13 milliards d'années, on a préfabriqué 1% d'éléments lourds.
Bon, même pas. Donc, non, c'est pas un souci. Le souci sera plus l'expansion de l'univers, et je crois, hein, mais là, c'est un peu de la science-fiction, je préfère pas. Bon. Si vous voulez, moi je peux. Il y a peut-être des gens qui.
On fera peut-être une conférence là-dessus sur la cosmologie, les années futures.
Si vous avez encore des questions, je peux y répondre de manière individuelle si vous voulez. Et on peut peut-être.
Oui, plus jeune.
Merci. Lors de la fusion thermonucléaire, les noyaux d'hydrogène sont épluchés de leurs électrons. Et qu'est-ce qui deviennent ces électrons? Est-ce qu'ils sont annihilés par les positrons générés par la réaction ou...
Alors les électrons, ils se baladent. C'est un gaz, on appelle ça un plasma. C'est un gaz de particules chargées. Les électrons, ils se baladent. Ce qui va se passer, le cas particulier, c'est dans le cas d'une étoile à neutrons, où là, les électrons sont tellement... Une étoile à neutrons, c'est un objet extrêmement dense. C'est l'étape juste avant le trou noir. La matière, il y a tellement de matière que ça, on atteint des densités qui sont énormes, qui est énorme. Ce qui se passe, c'est que les électrons sont tellement proches des protons qui vont fusionner avec le proton pour donner un neutron. Mais sinon, dans une étoile normale, les électrons, ils vivent leur vie. C'est des particules très légères comparées aux protons. Ils tournent autour, ils vivent leur vie et ça leur fait ni chaud ni froid.
D'accord, donc il continue à errer jusqu'à...
Oui. Alors, éventuellement, tu as raison. Si jamais un électron rentre dans un autre électron avec une vitesse suffisante, il va éventuellement donner des rayons gamma, quoi. Il va s'annihiler. Que je sache, je m'avance peut-être un peu vite, mais que je sache, les électrons, ils vivent leur vie, ils regardent ça de loin. Ça les concerne pas. Merci pour votre résistance. Et donc, si vous voulez discuter de manière plus informelle, pas de problème, moi je reste là.
S'arrêter là. Je vais simplement dire un petit mot pour terminer, pour annoncer des actions suivantes. Donc la prochaine ou les prochaines conférences, parce qu'elles auront lieu quasiment l'une à côté de l'autre, va nous amener au mois de mars. Donc première conférence le 20 mars ici. Donc ce sera autour de Neptune et des planètes géantes. Intervention proposée par Thérèse Encrenat et qui devait faire écho à une conférence qui devait avoir lieu en début d'année scolaire sur la découverte de Neptune par Le Verrier, parce que cette année on fêtait à la fois les 200 ans de la naissance de Le Verrier, mais aussi on fêtait en quelque sorte le premier anniversaire de Neptune, puisque ça faisait 165 ans qu'on l'a découverte, et 165 ans ça correspond à un tour de Neptune autour du Soleil. Donc une année sur Neptune. Donc à cette occasion-là, j'avais invité Fabien Locher, mais qui a eu un petit souci de santé, donc il reviendra là encore en 2012. Et le lendemain, le mercredi 21, eh bien, on s'intéressera à un sujet qui a commencé à être un peu abordé ici, c'est-à-dire qu'on fera une intervention autour de la vie dans l'univers, de la recherche de la vie dans l'univers. Donc amorcé ici parce qu'on s'est rendu compte que cette vie, c'était pas autour de n'importe quelle étoile qu'il fallait la rechercher. Et là, cette fois-ci, ce ne sera pas une conférence à Poitiers, mais à Châtellerault, collège Georges Sand, en partenariat donc avec la Société des sciences, donc que cette conférence aura lieu. Et ensuite, donc, il y aura d'autres interventions donc, au cours de l'année. Donc des conférences, mais en dehors de Poitiers, en dehors de la Vienne, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vers La Rochelle, vers Angoulême, et à Poitiers, il y aura une observation qui sera faite le 29 février, à l'occasion là, encore des 50 ans du CNES, et ce sera pour voir un peu la relation qu'il peut y avoir entre l'astronome amateur et l'utilisation des satellites. Et donc ce sera une observation qui sera faite à la Forêt de Molière, là aussi avec un partenariat qui est fait avec la SAPP, la Société d'Astronomie Populaire Poitevine. Et puis qu'est-ce que je dis? J'ai oublié une chose. Oui, par rapport à la recherche de vie, le samedi 24, donc là je proposerai un atelier ici à Mendès France sur comment communiquer avec les extraterrestres, hypothétiques, voilà, mais c'est pour reparler d'un programme de recherche scientifique qui s'appelle SETI, donc on verra un peu comment ça peut se faire. Voilà. Oui, mais bon, on ne vous empêche pas d'en parler. Parce que c'est un programme, là, tout récemment, en fait, les dernières antennes ont été mises à couper le courant. Alors, il a été abandonné une première fois, c'était en 94, mais il a refonctionné par des financements privés. Et là, il y a eu des antennes qui ont été abandonnées au niveau du financement. Ce qui est dommage parce que la radioastronomie, ce n'est pas une astronomie qui coûte cher. Ça coûte quasiment rien par rapport à l'astronomie optique. Alors bien sûr, depuis, ça fait 30 ans qu'on écoute, entre guillemets, on n'a rien trouvé, mais il faut des durées de vie, des durées de temps certainement très longs. Et malheureusement, ce qu'on se rend compte parfois en science, c'est qu'on cherche quelque chose et qu'on trouve autre chose qui était là au début. Et voilà, donc... ça serait bien. Il n'y a rien. Non, mais enfin, c'était déjà un programme ambitieux.
Oui.
Mais.
Il
n'y a plus grand.
Réfléchir, puisque ça n'a pas l'air de marcher, réfléchir à un autre moyen. J'en sais rien, mais on penserait à un SETI 2 avec une autre manière de. Mais bon.
Mais après, bon, je me répète, hein, ça ne coûtait pas grand chose.
Ouais.
Mais bon, voilà. Commence par grignoter.
Alors, sur
il fonctionne toujours, mais pour d'autres missions. Pour d'autres missions, c'est-à-dire que c'est les financements du programme de recherche qui ont été coupés.
Il fonctionne toujours, voilà. pour d'autres applications.
Sachant que c'est la radioastronomie, ça marche jour et nuit. Enfin voilà, même s'il y a des nuages, ça fonctionne toujours. Enfin c'est pour ça que ça coûte pas très cher. Et puis le radiotélescope lui-même, il coûte bien moins cher qu'un télescope optique. Enfin c'est. Voilà, donc c'est quand même l'occasion de reparler à comment est-ce qu'on envoie des messages dans l'espace et comment éventuellement on peut décoder, détecter ces messages-là, l'idée là. Voilà, pour les prochains rendez-vous. Donc je vous remercie de votre écoute, de votre attention et donc peut-être à une prochaine fois. Voilà, au revoir.